RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel. Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
À la une du journal, des dizaines de milliers de réservistes israéliens bientôt sur le pont à Gaza.
D'après des médias locaux, l'armée a commencé à envoyer ses réquisitions pour étendre son offensive dans l'enclave palestinienne et faire pression sur le Hamas, alors que les négociations patinent encore et toujours. Ils se pressent dans les bureaux de vote depuis une heure, les Roumains de retour dans l'isoloir pour choisir leur futur président. 11 candidats, mais un grand favori pour ce premier tour, Georges Simion, figure d'extrême droite propulsée par l'éviction de Kaline Georgescu. Dans ce journal également, le Togo change de régime, mais pas de visage. Et puis, un sursis pour la radio Voice of America, pourtant dans le viseur de Donald Trump.
Cela laisse présager une nouvelle montée en intensité dans les combats. Israël rappelle des dizaines de milliers de réservistes.
Révélation des médias israéliens hier soir. Et l'objectif de l'armée est clair, étendre son offensive à Gaza. Une tentative de faire monter la pression sur le Hamas pour obtenir un accord de cessez-le-feu, alors que les négociations sont au point mort. Au même moment, des milliers d'Israéliens ont pris d'assaut les rues de Tel Aviv, comme tous les samedis, inlassablement, pour demander que tout soit fait pour obtenir la libération des otages. Mais après des mois de mobilisation, peu à peu, ces rassemblements rendent aussi hommage aux victimes gazaouis. Reportage Amira Suilem.
Un air de musique pour les otages. Gaza n'est qu'à une soixantaine de kilomètres d'ici. Comme tous les samedis, les captifs israéliens sont dans tous les esprits ici. De plus en plus, les Gazaouis aussi. Yaël est institutrice à la retraite. Comme des centaines d'Israéliens ce soir, elle brandit en silence un portrait d'enfant palestinien tué par des bombes israéliennes.
Là, c'est une petite fille. Elle a existé, mais elle n'est plus de ce monde désormais. Elle a été tuée le 17 avril à Jabalia. C'est très important pour moi que tout le monde sache qu'on tue des enfants pour rien, juste pour que le gouvernement reste au pouvoir.
Un jeune homme patiente. Il demande à prendre la parole. Il dit avoir 18 ans.
J'espère qu'un jour je vivrai en paix avec mes voisins. J'aimerais qu'on ait un jour un seul pays pour tous où on puisse vivre en paix, juifs, musulmans et chrétiens. J'ai choisi de ne pas servir dans l'armée parce qu'aller à l'armée, ça voudrait dire, selon moi, être en situation de vouloir tuer des bébés.
Un autre cortège arrive. Une manifestation contre le gouvernement Netanyahou. À la vue des photos d'enfants de Gaza, les tambours se taisent. Un hommage silencieux qui en dit long sur les doutes et sur l'émotion que commencent à s'autoriser à exprimer les Israéliens. Amira Suilem, Tel Aviv, RFI.
Et dans l'enclave palestinienne, les frappes se sont poursuivies hier. 11 personnes ont perdu la vie dans un raid contre Ran Younes, selon la défense civile. Quant à l'aide humanitaire, elle est toujours bloquée aux portes de Gaza. Après deux mois sans le moindre ravitaillement, le gouvernement israélien pourrait se pencher aujourd'hui sur la question, selon les médias locaux.
L'armée israélienne mobilisée aussi dans le sud de la Syrie.
Des soldats ont été déployés hier dans la région après une journée d'intenses frappes et en réaction aux violences qui ont fait une centaine de morts cette semaine au sein de la communauté druze. Israël balaie donc les réactions internationales et les demandes de l'ONU qui réclamait hier la fin des attaques dans le pays et le respect du droit international. 6 mois plus tard, retour dans l'isoloir pour les Roumains. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a une heure pour rejouer la présidentielle du mois de novembre, annulée pour cause de soupçons d'ingérence russe. Entre-temps, Kaline Georgescu, candidat d'extrême droite controversée, a été exclue, mais ses idées restent vivaces, désormais portées par Georges Simion, donné favori de ce premier tour. Il est crédité de 30% des voix. Galvanisé par un report en sa faveur, le candidat a aussi fait recette avec son discours anti-système, selon Sergiu Mișcuiu, professeur de sciences politiques à l'université de Cluj.
Depuis septembre 2021, on a au pouvoir une grande coalition gauche-droite et cela a été un argument très important dans la dénonciation du pouvoir et du système. Il faut dire que, vu la polarisation extrême de la société entre les gagnants de la mondialisation, de l'européanisation et une autre partie qui se sent un peu négligée, l'accumulation de ces frustrations a donné lieu à l'existence d'à peu près 30% du total du corps électoral roumain qui se nourrissent d'informations qui viennent uniquement des réseaux sociaux. Et tout cela crée des prémices malheureusement très importantes pour que cette nouvelle extrême droite, particulièrement radicale, se développe.
Propos recueillis par Daniel Vallaud. Et si Georges Simion peut se féliciter de s'être assimilé à un Trump roumain, se rêvant même en président MAGA, en Australie, le conservateur Peter Dutton ne peut pas en dire autant. Les travaillistes, emmenés par le Premier ministre sortant Anthony Albanese, ont emporté les législatives d'hier en raflant, selon les derniers chiffres, 85 sièges sur les 150 du Parlement. Une victoire inespérée il y a quelques mois est due en partie aux propos aux accents trumpistes du leader conservateur, mal passé dans le contexte de la guerre commerciale lancée par Washington. Le président américain Donald Trump va encore devoir prendre son mal en patience dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Toujours pas de solution malgré deux mois de discussions séparées menées tambour battant par Washington. Hier, Volodymyr Zelensky a rejeté une proposition russe, un cessez-le-feu très temporaire, quelques jours seulement, à l'occasion des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Pour le président ukrainien, il n'est pas sérieux d'espérer s'entendre en 3, 5 ou 7 jours.
Commémoration également en Allemagne.
8 décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus particulièrement la libération des camps de concentration nazis que le pays célèbre. Ce dimanche, les Allemands rendront hommage aux victimes du camp de Sachsenhausen, non loin de Berlin, où 200 000 personnes ont été déportées. Sur le point de perdre la guerre, les nazis ont évacué le camp en organisant des marches de la mort avec les survivants. 18 000 détenus, très affaiblis, livrés à eux-mêmes dans une forêt de la région. C'est dans ces lieux empreints d'histoire qu'une cérémonie a été organisée hier en compagnie d'enfants et petits-enfants de déportés français. Pascal Thibault.
Vous le voyez ? C'est ça, tout en bas. On peut encore voir la maison, en fait, là.
Dans le bois de Bello, dans le nord du Brandebourg, les arbres, 80 ans plus tard, portent encore les cicatrices de l'histoire. Marcel Suillereau faisait partie de ces déportés. Sa fille, Mireille Cadieu, dirige aujourd'hui l'amicale française de Sachsenhausen. Si elle se consacre au travail de mémoire, elle veut aussi que les leçons du passé soient tirées.
Les hommes et les femmes qui, dans les camps de la mort, ont fait de la dignité et de la solidarité un combat quotidien pour survivre, nous montrent, par leur exemple, la voie à suivre.
Matteo Letellier est l'arrière-petit-fils d'une déportée du camp de Ravensbrück. Il est présent avec d'autres membres de sa famille, dont sa grand-mère, qui témoigne inlassablement dans des écoles, il y a quelques années, dans le collège de son petit-fils.
On a forcément un poids, une responsabilité sur le don. Ça rendait le cours d'histoire plus réel. Au collège, il faut se dire qu'on a réussi à commettre des horreurs comme ça. Il faut réussir à en prendre les conséquences. Comment éviter que ça re-arrive, quoi.
Le maire de Wittstock-Dosse, où se trouve le bois de Bello, participe à la cérémonie et salue la forte présence de la délégation française, Philippe Wacker.
Quand des enfants et des petits-enfants de déportés s'engagent pour la mémoire et sont prêts à venir ici en Allemagne, alors on a fait un grand pas.
Près de 50 Français ont fait le déplacement pour la Xème ou pour la première fois et ont participé à une marche symbolique pour la vie après celle de la mort des nazis. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et à découvrir sur notre antenne ce dimanche un entretien avec Mireille Cadieu que vous venez d'entendre. Ce sera un peu plus tard dans RFI Matin.
RFI 5h08 à Lomé, le Togo vient d'achever sa mue.
Fini le régime présidentiel, le Togo est désormais un régime parlementaire. Un an après la promulgation de sa nouvelle constitution, le pouvoir exécutif et la direction des armées sont désormais entre les mains d'un conseil et de son président qui a été désigné hier, Magali Lagrange, et qui n'est nul autre que Faure Gnassingbé lui-même.
De président de la République à président du Conseil, le titre change, mais le pouvoir reste entre les mains de Faure Gnassingbé, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le pays achève ainsi sa transition vers un régime parlementaire. Il y aura toujours des élections législatives au Togo tous les 6 ans, mais plus d'élections présidentielles au suffrage universel direct. Un moyen de renforcer la démocratie, affirment les tenants du pouvoir togolais. Une confiscation du pouvoir au mépris de la souveraineté du peuple, rétorquent ceux qui, dans l'opposition et la société civile, sont toujours vent debout contre cette nouvelle constitution et y voient un moyen pour Faure Gnassingbé de rester à la tête de l'État sans limitation de mandat. Faure Gnassingbé dirige le Togo depuis 20 ans. En 2005, il succède à son père, lui-même au pouvoir pendant 38 ans. Son élection est marquée par des violences qui ont fait 500 morts selon les Nations Unies. Son 4e mandat s'achevait cette année. Le chef de l'État avait la possibilité de se représenter une dernière fois pour un mandat de 5 ans.
Magali Lagrange. Elle se targue près de 80 millions d'auditeurs rien que pour sa diffusion en Haoussa. Voice of America va pouvoir reprendre du service un mois et demi après le début de la vendetta lancée par Donald Trump contre cette radio. Un nouveau revers judiciaire pour le président américain, Guillaume Nodin.
Il y avait des larmes à la table des journalistes de Voice of America à la fin avril lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche boycotté par l'administration. Une semaine plus tard, pour la journée internationale de la liberté de la presse, les sourires sont sans doute revenus au moins provisoirement. Voice of America et ses avatars Radio Free Europe et Radio Free Asia étaient privés depuis la mi-mars de financement et donc d'antenne par un décret présidentiel. Donald Trump conteste l'indépendance éditoriale de l'organisation qui touche des millions d'auditeurs hebdomadaires et de téléspectateurs dans le monde entier. Il souhaite que ses antennes défendent le point de vue de son administration. Mais son décret, comme de nombreux autres, a été suspendu par deux juges fédéraux de New York et Washington qui le considèrent illégal. Le département de la justice a donc fini par indiquer aux avocats de l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières que plus de 1400 employés vont pouvoir reprendre leur travail dès la semaine prochaine, peut-être provisoirement. En fin de semaine dernière, Donald Trump a ordonné de cesser le financement des médias publics et ce type de financement n'apparaît pas dans son projet de budget pour 2026. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et puis du sport, pour refermer ce journal, Léa, le Paris FC enchaîne décidément les succès.
Et oui, week-end de rêve pour le petit club parisien habitué à évoluer dans l'ombre du Paris Saint-Germain. Les hommes ont assuré leur montée en Ligue 1 la saison prochaine et les femmes ont enchaîné hier en remportant la Coupe de France. Elles ont détrôné le PSG tenant du titre et ont décroché par la même occasion leur tout premier trophée. C'est aussi la première coupe de la capitaine Gaëtane Tinet qui, à 39 ans et en toute fin de carrière, a laissé s'exprimer son émotion ce samedi.
Extraordinaire, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pensé ça. C'est une Coupe de France, mais pour moi c'est un trophée extraordinaire parce que c'est le seul de ma carrière et ça récompense beaucoup, beaucoup d'efforts et le travail d'un club qui, depuis des années, progresse chaque année face à deux énormes équipes qui sont Lyon et Paris Saint-Germain. Et je me disais, c'est pas possible qu'on gagne pas. On rate le pénalty et suspend jusqu'au bout. Il fallait que je gère mes émotions. Je suis allée voir ma psy plusieurs fois le dernier mois. Et ce matin, elle m'a envoyé un petit message. Elle m'a dit, accueille toutes les émotions, tu vas faire un beau match. J'ai eu quelques crampes, je sais pas pourquoi, j'en ai jamais, mais ça devait être la pression. Et j'ai dû sortir et c'était aussi finalement un beau passage de témoin et l'équipe a pris le relais et c'était encore plus beau.
La footballeuse Gaëtane Tinet au micro de Christophe Diremzian. Les femmes sont décidément en grande forme puisqu'hier, l'américaine Cathy Ledecky, star de la natation, a battu son record en 800 mètres nage libre. C'était à Fort Lauderdale. 8 minutes 4 secondes et 12 centièmes. Un nouveau succès donc pour celle qui est déjà nonuple championne olympique. Vous écoutez RFI. Il est 7h13 ici à Paris. Je vous laisse avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Léa Boutin-Rivière. À tout à l'heure. Dimanche 4 mai 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information. Et dans l'enfer humanitaire de la bande de Gaza, la perspective d'une offensive israélienne étendue. Alors que l'État hébreu rappelle sous les drapeaux des dizaines de milliers de réservistes, c'est ce que révèle la presse israélienne. Et on en parle avec Michel Paul en direct de Jérusalem à 6h, temps universel. Israël qui fait fi par ailleurs des avertissements internationaux, de l'appel de l'ONU à cesser ses attaques en Syrie. Le pays déploie des soldats au sol dans le sud de la Syrie, toujours en réaction aux violences intercommunautaires qui ont fait près de 100 morts cette semaine dans la communauté druze. Dans le journal de 6h TU, témoignage d'une habitante de Souaïda, bastion de cette minorité où l'on craint de nouvelles attaques. L'actualité ce matin sur RFI, c'est aussi cette frappe des paramilitaires FSR sur l'aéroport de Port-Soudan. Prochain journal dans moins de 20 minutes pour faire le point sur l'actualité africaine. Bienvenue, il est 5h14 en temps universel. Et pour commencer, des inondations, des pluies intenses, des routes ou des habitations détruites. C'est ce qui attend la Colombie jusqu'au mois de juin, selon l'Institut météorologique du pays. La saison des pluies, qui a débuté le mois dernier avec le phénomène La Niña, a déjà causé de nombreux dégâts dans le pays et fait au moins 2 morts dans la ville de Medellín. Le maire de Medellín a déclaré l'état d'urgence pour catastrophe naturelle et lancé un appel aux dons, alors que certains quartiers de la ville restent inaccessibles depuis la fin du mois d'avril. Ces inondations sont un effet indéniable du réchauffement climatique, mais pas seulement. La déforestation et l'urbanisation sans contrôle sont aussi en cause. Reportage en Colombie, Najet Benrabah.
Ce bruit de la pluie est devenu le quotidien des habitants de l'arrondissement San Antonio de Prado de Medellín. Chaque année, les précipitations sont de plus en plus fortes. En ce début de la saison hivernale, les conséquences sont déjà visibles. Alejandro Castaño est agriculteur de père en fils. Ce quadragénaire est natif de San Antonio de Prado et il a été témoin de plusieurs inondations, dont la dernière en date, au début du mois d'avril.
Les affluents de ruisseaux sont obstrués, bouchés à cause de l'abattage des arbres. Donc de nombreux bassins se retrouvent avec des sortes de barrages qui bloquent l'eau. La matière végétale s'accumule et ensuite se déverse partout et inonde les maisons qui sont proches des ruisseaux. C'était le cas dans le district d'Astilleros.
Sa voisine, Natalia Mesa, s'inquiète de la fissure qui traverse la route près de chez elle.
Regardez, quelqu'un a essayé de boucher le trou. Ici, on voit des débris et de la terre, mais comme les camions continuent de passer dessus, notamment les poids lourds, eh bien la fissure continue de se creuser. Le trou dans le sol est énorme, surtout qu'il se trouve sur une faille géologique. D'ailleurs, juste en face, avant, il y avait une très belle maison. La famille a dû être évacuée et la maison détruite.
Pour prévenir ces phénomènes, les pompiers de Medellín sont en train de cartographier le secteur. À l'aide d'un drone, deux pompiers scannent la montagne pour détecter les éventuelles fissures ou mouvements de plaques tectoniques d'une des zones inondées il y a quelques jours. Le capitaine Juan Guillermo Uzma, sous-commandant du corps des pompiers de Medellín.
Dans ce type de cas, il est avant tout question de glissement de terrain. C'est parce que ce sous-sol est devenu une sorte de nappe phréatique. Il pleut tellement que le terrain ne parvient plus à absorber l'eau. Du coup, l'eau commence à se déplacer vers le bas de la montagne à travers ses chemins sur le côté. Le cours d'eau augmente, ça peut se transformer en un barrage et finir par déborder. Avec les débris et blocs de rochers, ça se transforme en coulée de boue.
Pour faire face à ces phénomènes climatiques dits du Niño et de la Niña, les autorités utilisent un système d'alerte dit le CIATA. Carlos Quintero, directeur du département de gestion des risques et des catastrophes de Medellín.
Nous avons une surveillance en temps réel via le satellite. Mais même si cela aide, il est parfois difficile d'avoir des prévisions précises, notamment concernant la quantité de précipitations attendues. Le sujet des catastrophes naturelles est un sujet ambigu, complexe. Tout ce que nous pouvons établir, ce sont des scénarios de risque d'origine naturelle.
D'après l'IDEAM, l'Institut de météorologie colombien, la saison de fortes pluies en Colombie s'étendra jusqu'à la fin juin. Dans son rapport, l'organisme prévoit des précipitations supérieures de 20 à 50% à la normale au cours de mai. Najed Benrabah, Medellín, RFI.
Notre reportage international en Colombie à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche. Bonjour Raphaël Delvolvé.
Bonjour Julien.
L'éternelle guerre des droites se poursuit. On se penche avec vous ce matin sur la bataille pour la présidence du parti Les Républicains entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Le dénouement est dans deux semaines, le 18 mai prochain, et la campagne déjà tendue s'est encore raidie ces derniers jours.
Oui, dans le camp Retailleau, un proche du ministre de l'Intérieur s'inquiète d'une fin de campagne pourrie par Laurent Wauquiez, le chef des députés de la droite, challenger de l'élection, multiplie ces derniers jours les coups de pression. Laurent Wauquiez se saisit notamment de l'intense débat budgétaire lancé par François Bayrou, n'hésitant pas à menacer de retirer le soutien du parti Les Républicains au gouvernement si les impôts augmentent lors du budget 2026. Il demande aussi à Bruno Retailleau de s'opposer publiquement à l'instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Il veut mettre le ministre de l'Intérieur dans l'embarras, car il est vrai, de par son poste, il ne peut pas se permettre de telles menaces. Mais comme depuis le début de la campagne, il refuse de réagir tout en concédant recevoir des attaques matin, midi et soir. L'entourage de Bruno Retailleau, favori des sondages, répond toutefois hors micro. Laurent est le seul à faire ce genre de menaces. Personne ne le suit en réalité au parti. Une anecdote résume d'ailleurs assez bien l'ambiance du moment à 15 jours du scrutin. La semaine dernière, les deux rivaux se sont croisés pour une séance photo pour un hebdomadaire. Ça a duré 7 minutes 30. Ça n'était ni froid ni très cordial, raconte un témoin.
L'autre grande bataille de la campagne, c'est aussi la course aux adhérents. Et là, Raphaël, les deux candidats ont fait le plein.
Oui, on connaît maintenant le nombre de votants potentiels pendant les 24 heures de scrutin en ligne. Plus de 121 600 adhérents, soit quasiment le triple du nombre de cartes qu'il y avait en février, 43 000. L'important se niche dans les détails pour évaluer la capacité de chaque candidat à rallier des soutiens. Laurent Wauquiez a fait le plein chez lui dans la région qu'il a dirigée, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a près désormais de 18 000 encartés. Bruno Retailleau, lui, vient des Pays de la Loire, région moins grande, moins peuplée et donc peu décisive dans le décompte final. Mais il pourra en revanche compter sur l'autre grande région LR, l'Île-de-France et ses 26 000 adhérents. Une large majorité de cadres, notamment de la Fédération de Paris, première du pays, assure que c'est en réalité son véritable bastion. Pas un hasard s'il organise son dernier grand meeting le 11 mai prochain en région parisienne, avec chez ses soutiens la quasi-certitude que le match est plié. Il ne sera pas élu avec 65%, mais pas loin, confie un sénateur. Laurent Wauquiez, lui, continue son marathon avec deux meetings par jour, parfois toute la semaine. Son entourage, même si les sondages disent le contraire, se dit convaincu qu'il va l'emporter, car la campagne des militants, c'est clairement la sienne.
Affaire à suivre, Raphaël Delvolvé, merci beaucoup. Ce sont des sociétés secrètes à l'activité criminelle difficilement contrôlable et qui sont devenues, au fil du temps, une mafia internationale. À Hong Kong, la police les désigne sous le terme mystérieux de triade. Mais quelle est la réalité derrière les fantasmes que suscite le crime organisé chinois? Ses relations ambivalentes avec le pouvoir, sa volonté d'étendre son influence aux quatre coins du monde. Le journaliste Antoine Witkin signe un ouvrage intitulé « Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde » aux éditions Talendier. Il nous en parle ce matin au micro de Nicolas Roca.
Antoine Witkin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, question simple, pourquoi est-ce que vous avez commencé à vous lancer dans ce projet? D'où vient votre intérêt pour les organisations de crimes organisés du monde chinois?
Lorsqu'un jour, un producteur en l'occurrence m'a parlé des triades, je dois dire qu'en quelques recherches sur Internet, je me suis dit, c'est génial, parce que justement c'est inconnu, parce que c'est difficile et donc le défi m'intéressait, parce que c'est une manière de raconter l'histoire de Chine, et en fait c'est ce que j'ai voulu faire, alors au travers des triades, raconter une certaine partie de la grande histoire de Chine, c'est ça qui m'intéressait. Tout ça a fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans.
Alors comment est-ce que ces mouvements mafieux commencent à émerger en Chine ?
La mafia chinoise, les mafias, il n'y a évidemment pas une mafia, il y a des mafias, se réclament de sociétés secrètes qui sont nées au XVIIe siècle. C'est vraiment le début de la chute progressive de la Chine jusqu'au XXe siècle. L'empire chinois est dominé par une dynastie d'origine manchoue. Une partie des Chinois, tout simplement, sont pas contents. Il y a des luttes de pouvoir avec des chefs de guerre. Et donc, dans ce chaos, ces sociétés secrètes, à partir du XVIIe siècle, prétendent défendre les paysans, les travailleurs pauvres. Et au fil du temps, évidemment, ces organisations politiques, avec une base sociale, opèrent des activités de plus en plus criminelles. Aujourd'hui, voilà, ces triades se revendiquent de cette histoire-là. C'est d'abord une revendication symbolique qui permet à ces organisations qui sont d'abord criminelles de justifier leur emprise sur les esprits, de justifier également leur emprise parfois territoriale sur des quartiers, sur des gens, de justifier des rackets. Donc c'est évidemment très utile de s'appuyer sur cette histoire longue.
Alors votre livre, c'est aussi énormément de personnages très forts avec lesquels vous vous êtes entretenu. Quelle est la rencontre la plus marquante?
La rencontre la plus forte, et d'ailleurs elle ouvre le livre, je raconte ma nuit avec le tyran de fer, qui est la tête de dragon, le parrain des parrains, d'une triade qui s'appelle Alliance Céleste, qui est aujourd'hui la triade taïwanaise la plus puissante, et donc l'une des triades les plus puissantes, parce que les triades de Taïwan aujourd'hui sont dominantes. Je dois dire que là, la rencontre était assez incroyable. Voilà, je l'ai vu arriver dans un convoi d'une dizaine de voitures. Il a voulu me renifler au départ, quand même, bien qu'il ait accepté l'interview. Donc on a dîné dans un restaurant. Puis ensuite, on est parti dans un temple, contrôlé par la triade, ce qui est intéressant. C'est quelque chose qui est utilisé par les triades, une légitimité religieuse. Et puis ensuite, on a fait cet entretien assez long. Et puis ensuite, on est parti en boîte de nuit. Puis on est parti dans le club secret de la triade. Voilà, et pour savoir tout ce qui s'est passé, il faudra lire le livre. C'était extrêmement intéressant et utile pour mon enquête.
Alors, vous évoquez la présence bien établie de ces groupes et de ces réseaux mafieux sur l'île de Taïwan. Mais quelle relation est-ce qu'ils entretiennent avec le Parti communiste chinois à la tête de la Chine populaire?
Jusque dans les années 80, les triades sont complètement coupées de la Chine continentale sous domination communiste. Elles sont donc réfugiées à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. La jonction se fait à Hong Kong dans les années 80, quand la Chine s'apprête à se voir rétrocéder, ce qui finalement sera le cas à la fin des années 90, Hong Kong et Macao, qui est un gros enjeu pour la Chine de cette époque. Elles s'aperçoivent que les triades sont extrêmement puissantes, et donc elles comprennent qu'elles n'ont pas intérêt à les avoir contre elles, et donc là elles opèrent un pacte qui est en gros, vous n'empêchez pas la rétrocession, vous ne nous posez pas de problème, et en contrepartie, vous avez le droit d'investir en Chine continentale, et également de continuer de manière un peu discrète vos activités criminelles un peu partout. Par la suite, évidemment, les triades n'ont pas respecté le deal entièrement, puisqu'elles ont mené des activités criminelles en Chine, alors qu'au départ, elles n'étaient pas censées le faire. Et ensuite, si vous voulez, cette relation continue, cette relation d'instrumentalisation réciproque, de donnant-donnant. Aujourd'hui, elles sont utilisées assez indirectement par le pouvoir chinois, donc pour sécuriser les routes de la soie, pour éventuellement, et je pense que c'est surtout ça qui intéresse la Chine communiste, essayer de contrôler les diasporas chinoises en Asie du Sud-Est. Donc elles rendent un certain nombre de services ponctuels. Encore une fois, il n'y a pas une alliance structurelle. Chacun a ses intérêts. Le pouvoir chinois, je pense, se méfie beaucoup des triades, évidemment, qui sont d'ailleurs des criminels et qui sont par ailleurs très souvent pourchassés comme tels. Hein. D'une manière générale, les triades et leurs activités criminelles les plus visibles, les plus quotidiennes, sont évidemment réprimées parfois très fortement par les autorités chinoises, par les autorités hongkongaises. Ça fait pas de doute. Voilà.
Merci beaucoup Antoine Witkin d'avoir répondu aux questions de RFI.
Merci.
Nicolas Roca et Antoine Witkin, notre livre international de la semaine, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, aux éditions Talendier. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
On savait que certains oiseaux pouvaient danser en rythme, mais des chercheurs de l'Université de Californie viennent de montrer, dans une étude parue dans la revue Scientific Reports, qu'une otarie avait réussi à tenir le rythme mieux et plus longtemps que les humains.
L'otarie en question s'appelle Ronan. Âgée de 15 ans, cette otarie de Californie, Zalophus californianus, capable de battre la mesure sur n'importe quel rythme avec sa tête, a été recueillie à l'âge de 3 ans, en état de malnutrition avancée après plusieurs échouages, par le laboratoire marin de l'Université de Californie à Santa Cruz. Un laboratoire spécialisé dans l'étude du comportement des mammifères marins. L'idée de tester sa sensibilité au rythme, sa biomusicalité interne, a été inspirée par le travail d'un professeur de psychologie et de neurosciences musicales, Annie Patel, de Tufts University, qui lui avait analysé les extraordinaires mouvements de danse et le rythme inné d'un cacatoès, le célèbre Snowball, star de YouTube, que vous avez peut-être déjà vu se trémousser en rythme sur Michael Jackson. Dans son étude, parue dans la revue Current Biology en 2019, Annie Patel avait démontré que Snowball maîtrisait parfaitement 14 pas de danse différents, tous très complexes, dont un impressionnant jeté de tête qui ne font pas partie du comportement naturel des cacatoès à huppe jaune, ce qui signifie donc que Snowball avait développé son sens du rythme en écoutant ses musiques préférées, mais aussi qu'il adore danser. D'autres animaux, en particulier des mammifères autres que les humains, seraient-ils eux aussi sensibles au rythme? C'est ce qu'ont voulu tester l'équipe d'éthologie marine et de psychologie cognitive de Peter Cook à l'Université de Californie, en entraînant donc la jeune otarie Ronan, dès son plus jeune âge, à reconnaître et à hocher la tête au rythme d'un métronome. Une habitude, un apprentissage qu'elle a non seulement gardé à l'âge adulte, mais aussi considérablement développé jusqu'à tenir la mesure et garder le rythme bien mieux que les humains.
Mais comment ces chercheurs ont-ils démontré qu'une otarie tenait mieux le rythme que nous?
Eh bien, en organisant une sorte de battle, de match, entre l'otarie Ronan et les étudiants et étudiantes de l'Université de Californie. Peter Cook et ses collègues ont évalué la constance et la coordination de Ronan dans ses mouvements de tête au rythme d'une caisse claire, d'une batterie, à 112, 120 et 128 battements par minute. Puis demandé à des étudiants de battre les mêmes rythmes avec leurs mains. Résultat paru vidéo à l'appui dans la revue Scientific Reports ce 1er mai 2025, le chronométrage des battements de tête de l'otarie était globalement plus précis et moins variable que celui des sujets humains. Plus fort encore, la précision des battements de tête en rythme de Ronan augmentait avec le tempo, ce qui n'était pas le cas des humains, de moins en moins précis au fur et à mesure que le tempo s'accélérait. Les otaries aussi peuvent donc avoir le rythme dans la peau. D'autres études sont désormais en cours avec des éléphants et des oiseaux pour tenter de mieux comprendre comment les rythmes sont perçus par les différentes espèces. Car le rythme, les battements du cœur et du corps, c'est la vie qui bat en rythme pour les otaries, les cacatoès comme pour les humains.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question.
Demain, notre revue mensuelle de la presse scientifique et puis mardi, comment habiter les déserts de sable, de pierre ou de glace autour de la superbe exposition Désert au Muséum d'Histoire Naturelle.
Merci Caroline Lachowski.